traversé, Rimbaud en mille morceaux. Produit et réalisé par Jean-Michel Djian et Charlotte Roux.
Nous étions tous trois au café du Ramor, Verlaine, Rimbaud et moi, lorsque Rimbaud nous dit « Étendez vos mains sur la table, je veux vous montrer une expérience. » Croyant à une plaisanterie, nous étendons nos mains. Tirant un couteau de sa poche, Rimbaud coupa assez profondément les poignets de Verlaine. J'eus le temps de retirer mes mains et ne fus pas blessé. Un autre jour, j'étais assis au café aux côtés de Rimbaud. Je quittai la table un moment et, lorsque je revins, je vis que mon verre contenait un liquide bouillonnant. C'était de l'acide sulfurique que Rimbaud venait d'y verser.
Aujourd'hui, deuxième volet, le voyou.
Forain le voit tel un grand chien gaffeur. Verlaine, eh bien Verlaine l'a nommé ange d'exil avant leur rencontre, mais après son arrivée dans Paris, Satan adolescent. Un célèbre caricaturiste du tout Paris d'alors l'a baptisé âne lugubre. Qu'est-ce donc en réalité que ce collégien rusto, poussé en graines pour employer l'image sévère de Daniel Rops? Un monstre prodige, déclare Jean-Jacques Brousson. Un voyou, écrit Benjamin Fondane.
Arthur est surtout un rebelle, un anticonformiste avéré qui continue d'inspirer ceux ou celles qui, hier comme aujourd'hui, l'adulent. De Kerouac à Léo Ferré ou Patti Smith, de Dylan à Terzieff, de Warhol à Godard, pas un artiste n'échappe à celui qui prônait le dérèglement de tous les sens pour atteindre l'état de voyant. Il fugue, se drogue, fait de la prison, vole. Rimbaud conteste partout l'autorité, la bourgeoisie, l'académisme, l'hétérosexualité. Toutes les conventions sont mises à mal et contestées. Sa mère, le monde littéraire et politique, ses employeurs. C'est tout le mythe d'une jeunesse indocile, révolutionnaire et anarchiste qui, à travers lui, ne cesse d'être éternelle. Ou comment la révolte trouve dans la figure du jeune poète une expression universelle en même temps qu'une source infinie de désillusion.
Rimbaud n'a pas eu précisément ce qu'on appelle une vie vertueuse. Il a été pédéraste, voleur, trafiquant. Et pour les institutions qui s'accommodent de ce monde vicieux, Rimbaud n'aura pas non plus le moindre respect. J'ai horreur de la patrie. Quant aux hommes, chacun est un porc, cela est évident. Rimbaud ne s'expliquera pas davantage. C'est à la condition humaine tout entière qu'il s'en prend. Sa fureur est métaphysique. Il ne faut pas lui demander ses raisons. Il répond, je suis une bête, un nègre, je ne puis pas m'exprimer.
Philippe Besson, en quoi Rimbaud est-il un voyou?
Parce que il a toujours aimé jouer avec les règles, les transgresser, désobéir, provoquer, parce qu'il a voulu provoquer ses maîtres, parce qu'il a voulu provoquer sa mère, parce qu'il a contrarié son destin de bon élève, parce qu'il a jeté au feu ses premiers prix de littérature de français, parce que il est allé dans les marges, parce qu'il a couché avec un homme, parce qu'il a vendu des armes, parce qu'il a fait ce qui était défendu.
Yves Simon, quoi Rimbaud est-il un voyou?
Très vite, très tôt, à Charleville, il est pas sympa, il fait la gueule, il provoque. Il n'est pas gentil avec sa mère, son père n'est plus là. Alors il a un seul copain qui s'appelle Delahaye, avec lequel il est gentil. Enfin, il se confie, c'est les vrais copains. Ils vont, ils traversent la rivière qui sépare Charleville de la Belgique. Ils vont acheter du tabac pour fumer. Et puis, très vite, quand il arrive à Paris, dès 71, il se comporte vite très mal. Il aime tromper les gens. Par exemple, il a prévenu donc Verlaine qu'il arrivait. Verlaine vient avec Charles Cros à la gare de Strasbourg et ils se rencontrent pas, ils se trouvent pas. Donc, un peu dépité, Verlaine rentre chez lui et il y a Rimbaud qui l'attend, qui donne aucune explication, qui dit oui, non, oui, non, qui va se coucher. Par exemple, Théodore de Bainville lui file une petite chambre de bonne où 10 Rubussy, la femme de chambre de Théodore de Bainville, qui a assez d'argent donc, va faire le lit à la petite chambrette de Rimbaud, et elle se plaint très vite en disant « c'est un goujat, votre invité là, c'est un petit salaud. Pourquoi ?» Ben parce que hier, j'ai changé les draps tout propres, tout neufs, et ben il est rentré dans le lit avec ses bottes toutes crottées des rues de Paris, par exemple, entre autres.
On dirait aujourd'hui que c'est un délinquant ?
Non, non, pas du tout. C'est pas un délinquant. Il vole pas. Ou alors, quand il a extrêmement...
Il monte dans un train sans payer.
Oui, bah voilà, ça, c'est de la toute petite délinquance, hein. Comme fouiller les poubelles parce qu'il a faim, essayer de, oui, de voyager gratuitement quand il a plus d'argent, ou parce qu'il a de l'argent pour aller jusqu'à telle ville, et puis se dire après, je me démerderai avec le, sans, en évitant le contrôleur ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas un délinquant, pas du tout. Il commet pas de méfaits au sens propre du terme. Il emmerde tout le monde. Il provoque tout le monde, même ses maîtres. Pourquoi il est venu à Paris et qu'il a écrit à Verlaine ? Parce qu'il l'admirait. Eh ben, il le traite très très mal. Et les autres...
Comme avec Isambard, son professeur au début.
Isambard au début, avec lequel il entretient de très bons rapports au lycée de Charleville. Après, il le traite pas de tous les noms, mais enfin, il lui écrit des lettres très désagréables. C'est un sale petit con, on pourrait dire tranquillement aujourd'hui de Rimbaud, c'est un sale petit con.
25 août 1870. Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province. Sur cela, voyez-vous, je n'ai plus d'illusions. Parce qu'elle est à côté de Mézières, une ville que l'on ne trouve pas. Parce qu'elle voit pérégriner dans ses rues 200 ou 300 piou-piou, cette benoîte population gesticule prud'homesquement spadassine, bien autrement que les assiégés de Metz et de Strasbourg. C'est effrayant, les épiciers retraités qui revêtent l'uniforme. Moi, je suis... Débraillé comme un étudiant, sous les marronniers verts, les alertes fillettes. Elles le savent bien et tournent en riant vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Je ne dis pas un mot, je regarde toujours la chair de leur cou blanc brodée de mèches folles. Je suis, sous le corsage et les frêles atours, le dos divin après la courbe des épaules. J'ai bientôt déniché la bottine, le bas. Je reconstruis les corps brûlés de belles fièvres. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas. Et mes désirs brutaux s'accrochent à leurs lèvres.
À Charleville, il avait fini, à l'en croire, par provoquer d'atroces résolutions d'une mère aussi inflexible que 73 administrations à casquette de plomb.
Francis Carco, 1952.
Elle a voulu, s'exclame Arthur avec indignation, m'imposer le travail. Travailler maintenant ? Jamais. Jamais je suis en grève. Je m'en crapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète. Dans ces conditions... Il n'était pas douteux qu'en faisant irruption dans la vie de Verlaine, Rimbaud en troublerait la placide, apparente et bourgeoise platitude.
Il y a à Charleville un personnage haut en couleur qui s'appelle Bretagne. Alors Bretagne, c'est un anarchiste, comme on n'en rencontre plus.
Alain Borère, 1978.
Quelqu'un qui était absolument contre tout, mais qui n'avait vraiment aucune idée reçue, et qui impressionnait fort Rimbaud. Bretagne lui dit qu'il a rencontré dans le nord de la France, l'été dernier, un poète qui s'appelle Verlaine, et lui propose d'envoyer, de sa part, une lettre de recommandation à Verlaine. Alors Rimbaud joint à cette lettre des poèmes personnels qu'on n'a pas retrouvés, mais la réponse de Verlaine ne se fait pas attendre, et c'est le mot célèbre « Venez, chère grande âme, on vous attend », accompagné d'un billet de train pour Paris.
C'est en effet Verlaine que Rimbaud, fuyant ses Ardennes, a rejoint à Paris lorsqu'il s'y rendit sur son invitation en septembre 1871.
Stanislas Fumé.
Verlaine s'enflamma.
1952.
Les autres poètes boudèrent ce grand garçon mal vêtu qui les traitait comme des épluchures. Le sage petit Rimbaud, grand de taille, arrivait de son lycée de Charleville, prêt à tout saccager. Il y avait en effet du diable en lui, ou, pensera Verlaine, de l'ange.
Le plus beau d'entre tous ces mauvais anges avait 16 ans.
Rimbaud était plein de ce démon surhumain qui l'habitait. Jamais poète n'a été possédé, à la lettre, d'une force créatrice aussi pure, aussi virginalement insolente.
Le soir de leur première rencontre, Rimbaud était tranquillement installé dans le salon où Mathilde, alors enceinte, essayait de l'apprivoiser en s'informant de sa famille, de ses projets. Tandis qu'avec sa figure rougeaude, son pantalon trop court, Arthur ne se mettait nullement en frais de conversation. Rien n'indiquait qu'il fût l'auteur de ces vers extraordinaires que Verlaine lisait à tout le monde.
Bien tard, quand il se sent l'estomac écœuré, le frère Milotus, un œil à la lucarne, d'où le soleil, clair comme un chaudron récuré, lui darde une migraine et fait son regard d'arne, déplace dans les draps son ventre de curé. Il se démène sous sa couverture grise et descend ses genoux à son ventre tremblant, effaré comme un vieux qui mangerait sa prise, car il lui faut le poing à lance d'un peau blanc à ses reins largement retroussés sa chemise.
En 71, mon père a été chercher Rimbaud à la guerre avec Verlaine.
Guy Charles Cros, fils de Charles Cros, 1955.
Et Rimbaud, il a logé Rimbaud dans son laboratoire. Et Rimbaud s'est amusé à casser toutes les fioles de produits chimiques. Mon père faisait de la photographie des couleurs. Mon oncle Antoine Cros, le médecin, l'a logé chez lui. Il avait des médaillons en terre cuite, de belles choses. Rimbaud écrivait le mot de Cambronne sur tous les médaillons au crayon. C'était vraiment un monsieur peu commode. Il a été accueilli par Théodore de Banville, qui était un homme charmant, et qui avait écrit à Rimbaud, venez chez Rame avec Verlaine. Ils avaient écrit une lettre avec, lui disant, venez, quand ils ont vu ce gosse, ils ont été stupéfaits. Parce qu'il venait d'écrire un bateau ivre. C'était un gosse qui avait l'air d'un gosse de 15 ans, quoi. Et il avait 16 ans, je crois. Et alors, il s'est amusé, il était couvert de poux, hein. Et il s'amusait à mettre des poux dans le disque de Madame de Bourville. Ça, ce sont des histoires que je tiens de ma mère et de mon père. Alors, c'est une histoire absolument authentique, je crains aucun démenti. C'était un drôle de personnage. Et un jour, vous savez que Rimbaud, dans une soirée artistique, il y avait un nommé Carja, qui était un photographe, et qui faisait de la mauvaise poésie. Et Rimbaud, après un couteau, a voulu le tuer. On a dû désarmer Rimbaud. Il avait 16 ans, l'autre en avait 35. À Londres, avant le coup de revolver de Verlaine. Il n'avait plus d'argent, il donnait des leçons, tous les deux. Il vivait misérablement dans une chambre garnie. Et un jour, il voit revenir Verlaine avec un poisson, je ne sais pas quel poisson, peut-être quelque part en sort aussi, et avec de l'huile, un bol contenant de l'huile à la main. Parce que j'ai eu la correspondance de Verlaine, entre les mains, quand j'étais secrétaire devant Bébert, et je l'ai lu presque entièrement. D'ailleurs, ce n'était pas très amusant toujours. Eh bien, alors Rimbaud disait, qu'est-ce que tu as l'air bête avec ton poisson et ton machin, tu as l'air d'un imbécile. Verlaine s'est fâché. Rimbaud dit, c'est comme ça, je m'en vais. Il prend le bateau, il s'en va. Désespoir de Verlaine, qui se précipite sur un autre bateau pour le rejoindre, le rejoint à Bruxelles. Et la mère de Verlaine rejoint Verlaine à Bruxelles, parce qu'il lui écrit des lettres, qu'il était fou. Il était fou, il avait lâché sa femme et tout, pour suivre Rimbaud. Alors Rimbaud a refusé de revenir avec lui, il a supplié. Et alors Verlaine, furieux, a tiré du coup le revolver sur lui. Et la police belge ne plaisantait pas avec les armes à feu. Alors M. Verlaine était bel et bien arrêté et condamné à 2 ans de prison qu'il a fait intégralement à la prison de Mons. C'est là, c'est le plus beau poème, sa geste. C'est là que le ciel est par-dessus le toit. Ça date de la prison de Mons.
Je suis sale comme Rimbaud, je suis lâche comme Villon, débauché comme Hugo, syphilitique comme Baudelaire. Mais peut-être après tout n'aimez-vous pas la poésie. Je suis faucheton comme Racine, exhibitionniste comme Rousseau, esclavagiste comme Voltaire. Je n'existe pas comme Shakespeare. Mais peut-être après tout n'aimez-vous pas la littérature.
À Paul Demny, Charleville, 15 mai 1871. J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. Je commence de suite par un psaume d'actualité. Chant de guerre parisien. Ils ont shako, sabre et tam-tam, non la vieille boîte à bougies. Et des yoles qui n'ont jam-jam fondent le lac aux eaux rougies.
Il y a un immense espoir dans la vie de Rimbaud qui coïncide avec sa maturité poétique de 1871 et avec l'explosion de la Commune. Il y était préparé par la lecture de Rousseau, par celle de Helvétius, par tous ces hommes politiques aussi dont il lisait les textes en marchant dans la campagne ardennaise, et notamment probablement Blanqui, davantage, surtout Blanqui, ou Proudhon, mais en tout cas Blanqui. Alors, lorsque la Commune éclate, il y a miraculeusement pour lui, en quelque sorte, quelques semaines, la conjonction de son ambition poétique, qui n'est pas une ambition littéraire, mais qui est liée au désir de changer la vie, avec cette révolution qui sera enfin le renversement de tout ordre établi et l'avènement de ce qu'il appelait lui-même une constitution communiste, bien entendu, au sens de Blanqui, c'est-à-dire où enfin les hommes seront libérés de toutes les contraintes et retourneront à l'état de nature, en quelque sorte, avec des, pour ce que l'on en sait, dans la mémoire de son ami Delà, et avec simplement des assemblées régionales, où enfin ils seront dispensés de tout ordre. Alors, il y a cette conjonction qui dure quelques semaines, et naturellement, l'écrasement de la Commune, qui fut extraordinairement sanglant et extraordinairement bouleversant, notamment pour un jeune homme qui, de toute façon, qu'il est ou non, on ne pourra jamais le savoir, contribuer militairement, sans doute pas d'ailleurs, à la Commune. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas été un des glorieux combattants de la Commune. Ce qui est certain aussi, c'est que son cœur était de ce côté-là, et que ce cœur bave à la poupe, comme le dit un poème, c'est-à-dire qu'il en éprouve aussi profondément l'échec. Cet échec est celui du réel. Le réel échappe complètement. Avec la Commune, il est écrasé dans le sang, mais aussi l'expérience poétique qui est parallèle, sinon convergente, échoue tout autant. C'est-à-dire que probablement il comprend ce que la saison en enfer va expliquer, du reste à sa façon, que l'alchimie du verbe ne réussit pas à transformer le monde, le réel, la vie. Et c'était pourtant l'ambition de la poésie. Alors, il est relativement simple de comprendre que cette ambition-là ne cesse pas et que la poésie n'en a été qu'un des moyens. Elle a été très exactement une entreprise. Et Rimbaud ne cesse de s'engager dans toutes sortes d'entreprises, non pas seulement pour changer la vie collectivement, mais pour en finir avec les conditions originelles.
Jean Marais, 1952.
Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète. Et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute, c'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. « Je » est un autre. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la sonde, l'apprend. mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu, puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche plus qu'aucun. Il arrive à l'inconnu, et quand affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables. Viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé.
Il y a un texte révélé il y a pas longtemps, c'est dans l'iconographie de Rimbaud qui est apparu, je crois, en 46 ou 47.
Conférence d'Henri Guillemin.
C'est un texte d'un petit poète bien inconnu, mais.
1955.
Qui avait écrit une chose intelligente qui s'appelle Valade. Et le 5 octobre 71, Valade écrit à son copain Blémont et il lui dit qu'il a fait la connaissance de ce nouveau venu à Paris qui s'appelle Arthur Rimbaud. Et il lui dit : c'est un môme qui vous fascine et qui vous terrifie, plein de puissance et de corruption. Ben, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce front pur de l'adolescent Rimbaud, derrière ses yeux, ses extraordinaires yeux bleus qu'il avait, vous savez, des yeux bleus pervenches, avec une bague bleue sombre autour de l'iris. Ce qu'il y avait, on le sait par les brouillons de la saison en enfer, la rage. Un tremblement de rage. Il écrit dans le brouillon, la rage du désespoir m'emporte contre tout. La nature, les objets, moi, que je voudrais déchirer. Pourquoi cette rage ? Ben, tâchons de comprendre, voyez-vous, c'est un garçon qui dit, ben, puisque c'est comme ça, ce qu'on appelle les réalités de la vie. Puisque c'est d'une part fétide et d'autre part atroce, alors il faut jouer le jeu à fond. Faut pas faire semblant. Faut pas tricher. Cette abjection qui est la nôtre, il faut l'assumer à plein. Il faut s'y rouler avec une espèce de défi, de passion noire et de provocation. Et que le langage même s'emplisse de ce stupre à quoi se réduit notre condition. Et il écrit à son professeur Isambard, qui a dû en recevoir un coup au cœur, « Je m'encrapule le plus possible ». Dans son encrapulement, il a une idée derrière la tête, vous comprenez? Il fait un espèce de voyage au bout de la nuit, avec l'idée que ça te conduira quelque part. Comme il l'a dit lui-même, dans une forme à la fois elliptique et abrupte, ça me conduira à savoir pourquoi, c'est-à-dire à comprendre le mot du secret. Et sa théorie, que vous connaissez bien, c'est sa fameuse théorie du voyant. Le poète se fait voyant par un long, lent, raisonné dérèglement de tous les sens. Alors il devient le grand malade, le grand maudit, le grand criminel et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Et quand, dit-il, et quand affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables. 15 mai 71. Attention, deux jours avant, le 13 mai 71, et écrivant cette fois à son ami Isambard, ce que je viens de vous dire est à Demny. Le 13 mai, écrivant à Isambard, il lui écrit encore plus concrètement ceci. Je me fais cyniquement entretenir. Je déterre d'anciens imbéciles de collège. Tout ce que je peux inventer de bête, de sale, de mauvais, en parole et en action, je le leur livre. On me paie en boc et en fille. Bête, sale, mauvais. Vous avez entendu, ces trois mots sont là. Ils sont dans la lettre noir sur blanc. Ils sont là avec leur totalité de signification. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a choisi le mal, les yeux ouverts, et sachant que c'est le mal. Alors dans la même lettre à Demny, d'où je tire la citation que je viens de vous apporter, à 3 cm de distance, un peu plus bas dans la lettre, il y a la preuve de la mauvaise conscience. La preuve du garçon qui cherche tout de suite à se disculper. Car il écrit exactement ce qui suit. Ce n'est pas du tout de ma faute. J'ai tort de dire « je pense ». Je devrais dire « on me pense ».« Je » est un autre. Ce qui signifie « je, moi, Arthur Rimbaud, le vrai Arthur Rimbaud, je suis conduit ». Dominé par une force qui me pousse par les épaules, une force que je ne peux pas nommer, qui s'appelle peut-être Fatum, destinée, destin, Dieu, Satan, je n'en sais rien, mais une force contre laquelle je ne peux rien, sinon me taire et obéir, et prononcer les paroles qu'elle me dicte.
Je est un autre.
Francis Carco.
Formule magique. Toute la poésie moderne lui doit son renouvellement. Arthur, que Bretagne faisait boire, est initié non seulement à l'occultisme, mais à la pratique des stupéfiants, ne manqua pas d'en user sans retenue. Un nouveau monde, ou plutôt un monde nouveau, s'ouvrait devant ses yeux. Un monde dont il multipliait les mirages, reculait les limites, jusqu'à ne plus savoir où elles se prolongeaient.
Viens, les vins vont aux plages et les flots par millions. Vois le bitter sauvage rouler du haut des monts. Gagnons, pèlerin sage, l'absinthe aux verts piliers, plus ces paysages. Quelle ivresse, ami! J'aime autant, mieux même, pourrir dans l'étang, sous l'affreuse crème, près des bois flottants. Arthur Rimbaud, La comédie de la soif.
Rimbaud et Verlaine sont célèbres pour leur consommation.
Alain Buisine.
Bizarrement, Verlaine ne parle, sauf erreur de ma part, oubli, omission, jamais d'absinthe dans sa poésie. On sait qu'il est évidemment un grand consommateur d'absinthe, mais par des textes extérieurs, des textes de témoignage, en particulier le texte de Gustave Le Rouge sur le vrai visage de Verlaine dans Verlainien et décadent. Où le jeune Gustave Le Rouge rencontre Verlaine au François Ier et Verlaine présente ce café comme étant son oasis verte, dit-il, hein, son oasis de verdure, par allusion bien entendu à la couleur de l'absinthe.
Il buvait de l'absinthe comme on boirait de l'eau. L'un s'appelait Verlaine, l'autre c'était Rimbaud. Pour faire des poèmes, on ne boit pas de l'eau. Toi, tu n'es pas Verlaine, toi, tu n'es pas Rimbaud. Mais quand tu dis je t'aime, oh mon Dieu que c'est beau, bien plus beau qu'un poème de Verlaine Rimbaud.
On est en présence d'un personnage difficile.
Henri Guillemin, 1973.
J'ai montré comment on se battait à propos de Jacques Rousseau, ou même à propos de Victor Hugo. Mais on se battait parce que c'est clair, et qu'il y avait les amis, il y avait les ennemis. Tandis que si on se bat encore au sujet d'Arthur Rimbaud, c'est parce que c'est pas clair. C'est pas clair qu'il y a des obscurités et sur la vie et sur l'œuvre. Alors qu'est-ce qu'il nous faut faire? Ben, j'ai pensé qu'il fallait simplement s'appuyer sur ce qui est absolument certain. Ben, qu'est-ce qui est absolument certain? Un, dans sa correspondance en va devant les camarades, Rimbaud parle très mal de sa mère. Il l'appelle la daronf, il l'appelle la bouche d'ombre, enfin il a l'air de mépriser sa mère. Oui, mais en fait, ça c'est une mise en scène devant les copains. Mais en réalité, devant sa mère, il est beaucoup plus gentil que ça, la preuve. Sa première fugue, quand il s'est sauvé de Charleville pour venir acclamer la République à Paris. Il avait voyagé partiellement sans billet. Alors dès qu'il arrive à la gare de Paris, on le happe, on le fout en prison, parce qu'on le met en prison parce qu'il n'a pas payé le prix de son billet. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Il est à Mazas. Il écrit à un de ses professeurs, qui s'appelle Isambard, et il lui dit, dès que vous recevrez ma lettre, je vous en supplie, allez trouver ma pauvre mère, il dit bien ça, ma pauvre mère, pour la consoler. Lorsqu'il va vivre avec Verlaine, dans le fameux drôle de ménage, eh bien, il s'arrange tout de même pour revenir au moins deux fois auprès de sa mère au moment où elle tient le plus à sa présence, c'est-à-dire au moment des grandes fêtes. Il va revenir à Noël 72, il va revenir à Pâques 73. Donc il y a une tendresse profonde et cachée chez lui à l'égard de cette mère qu'il fait semblant, de maudire. D'autre part, si on croyait à l'attitude que Rimbaud adopte à l'égard des camarades, on le verrait s'encrapuler, puisque c'est le mot qu'il emploie, je m'encrapule le plus possible. Il y a une lettre de lui à son ami Delahaye, une lettre écrite à Paris en 72, je crois, en 72, oui, avec un vocabulaire invraisemblable. Et je vous demande pardon ce que je vais vous lire. Paris devient par merde. Juin, c'est jonf. L'absinthe, c'est l'absonthe. La contemplation de la nature, ça devient la contemplostate de la nature, en laquelle, dit-il, je suis complètement, non pas absorbé, mais absorculé. Oui, voilà comment il écrit. D'autre part, il se décrit dans La saison d'enfer, je cite, il se décrit faisant de l'infamie une gloire et de la cruauté un charme. De mes ancêtres gaulois, j'ai dans le sang l'idolâtrie, l'amour du sacrilège, tous les vices, colère, luxure, magnifique la luxure. Surtout mensonge et paresse, plus oisif que le crapaud, je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime, je suis une bête, je suis une hyène. Allons, c'est pas vrai. Il en remet, il me semble qu'il y a là une espèce d'épate noire. Quand il dit aussi ma supériorité à moi, c'est que j'ai pas de cœur, je suis sûr que c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Mais regardez donc ce qu'il a écrit. Les effarés,
On le cite souvent, ce poème de Rimbaud. Il est beau. C'est ces petits-enfants pauvres qui sont accroupis un soir d'hiver devant le soupirail où ils voient un boulanger qui est en train de cuire, comme il dit, le lourd pain blond. Et Rimbaud regarde ces malheureux gamins qui sont penchés là, qui sont happés par la vue de ce pain qu'ils pourront pas manger. Ces pauvres Jésus pleins de givre. T'as même qu'à part de cœur qui écrit ça. Quand il écrit son petit texte qui s'appelle, un sonnet qui s'appelle « Le mal », c'est pendant la guerre. Il a regardé les femmes vêtues de noir qui viennent dans les églises pour donner deux sous comme ça au bon Dieu pour essayer de protéger le fils ou le petit-fils qui est au front, enfin qui a été exposé. Et il dit, je les regardais ramassés dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir. Pas de cœur. Ce Rimbaud qui pleure jamais, bien entendu, il est bientôt dur pour pleurer, mais si, il pleure. Regardez les textes de lui, par exemple, dans le bateau.